Amen. On va considérer la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous le savons, c'est elle qui est la nourriture pour notre âme. C'est au travers elle que Dieu nous donne à recevoir sa pensée, ses pensées. C'est elle qui contient la source d'exhortation, de conseils divins, d'édification, d'enseignement, enfin, tous les éléments constitutifs qui, eh bien, mis en évidence au travers de la prédication, vont constituer pour les enfants de Dieu ce que nous pourrions définir comme étant la nourriture au temps convenable. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Alors nous allons regarder ce soir dans la direction donnée par le Saint-Esprit un texte qui se trouve dans l'Épître aux Galates. Les Galates, ou dans cette église de Galates, l'apôtre Paul avait été conduit lors de ses voyages missionnaires à être l'instrument dans la main de Jésus pour que ces églises, qui en avaient plusieurs, ces églises puissent naître. Et quand le Saint-Esprit agit quelque part dans une ville, dans un lieu, et qu'il attire des âmes au salut, à Jésus-Christ, une église est constituée, eh bien les Galates étaient connus pour être des gens un peu particulier, dans le sens où c'était des gens qui étaient un peu versatiles. Ils étaient aussi connus pour leur curiosité et aussi connus pour leur recherche de nouveautés. Alors vous savez, lorsque l'ennemi voit que nous sommes dans ce cadre-là, il est champion pour pouvoir, eh bien, entreprendre et créer des situations pour pouvoir, malheureusement, amener certains enfants de Dieu sur le mauvais terrain. Et en ce qui concerne cette église de Galates, l'apôtre va donner cette parole qui se trouve mentionnée dans le chapitre 5. Chapitre 5, au verset 7. Galates, le chapitre 5, verset 7. C'est une parole qui ressemble autant à une déclaration, mais cela aussi ressemble à un constat. Il leur dit, Galates 5, verset 7, vous couriez bien, question, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Puis l'apôtre ajoute, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et si nous faisons un petit peu de grammaire, nous comprenons que le temps dans lequel le verbe est conjugué, vous couriez bien, c'est quoi ce temps? Imparfait? Imparfait. Donc, bon, fait bref, peu importe, le verbe est conjugué dans un temps passé. Ça veut dire, l'apôtre fait un constat que ceux qui couraient un temps où auparavant, ils ne courent plus. La réalité est dans l'énoncé de la parole que nous avons lue. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Ça veut dire, à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui a fait que vous qui couriez auparavant, vous ne courez plus. Vous êtes arrêté. N'est-ce pas? Alors, la question est posée, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Pourtant, le serviteur qui avait été l'instrument dans la main de Jésus avait prêché l'évangile, et en prêchant l'évangile, qu'a-t-il fait?
Amen. Il a amené la révélation du Sauveur, la révélation de Jésus, le Fils de Dieu, venu du ciel sur la terre avec la mission divine de chercher et de sauver les pécheurs en livrant sa vie et en versant son sang, afin que tout ce qu'exigeait la justice et le jugement de Dieu, se trouvant réglé et accompli, là où le jugement de Dieu était réservé aux pécheurs, alors sa grâce leur a été accordée en vertu de la repentance. En vertu de la repentance, qui a mené la conversion, qui a été suivie, dites avec moi, de la, allez, de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Pour qu'ils deviennent de nouvelles créatures. Et devenant une nouvelle créature, le Saint-Esprit est venu habiter leur cœur. Et le Saint-Esprit habitant le cœur de celui qui est repenti, converti, né de nouveau, les a certainement conduits à l'importance, en se soumettant à Jésus-Christ, de se faire baptiser par immersion. Depuis, l'ensemble des éléments que je viens de mentionner, eh bien, n'aurait pas de sens si n'était suivi du placement sur le chemin de la persévérance. Et en reçu dans le cœur une espérance vivante. Gloire à Dieu. Donc, c'est un peu, frères et sœurs en Christ, l'image de l'enfant de Dieu que je suis, que nous sommes devenus comme disciples de Jésus-Christ. Mais le constat est fait que ces mêmes Galates qui couraient bien auparavant, eh bien, ils ne courent plus parce qu'ils se sont arrêtés. Mais la réalité, c'est que, en lisant le texte, ou l'ensemble de l'épître, nous allons regarder cela de plus près, et peut-être qu'au travers de ce que nous allons partager, Dieu va nous donner, à nous ce soir qui sommes enfants de Dieu dans cette assemblée, à nous qui appartenons à Jésus-Christ, Dieu va nous donner à regarder un peu en nous-mêmes. Et puis, à aussi être vigilant pour que ce qui s'est passé dans l'église de Galate et qui va nous être relaté ce soir, nous puissions faire tout ce que nous pouvons pour ne pas nous en retrouver tributaires ou dans le même cas. La première chose. Première chose, frères et sœurs en crise, premier élément qui avait causé l'arrêt dont l'apôtre parle, c'est Galates, le chapitre 1er, verset 6. Dans une église, il y a quelquefois des choses qui se passent de manière sournoise. Oui, quelqu'un a dit tout à fait. Oui, tout à fait. Ce sont des choses sournoises qui sont quelquefois cachées. Des fois cachées, ces choses peuvent être insoupçonnées, mais c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas réelles. Et elles peuvent même mettre inconnu du pasteur, même inconnu des anciens, parce que c'est un peu le travail de celui qui travaille par en dessous, de manière cachée. Mais il poursuit un dessein, et dans ce qui s'est fixé, il travaille pour atteindre son but. Mais heureusement que le maître est là. Heureusement que Jésus bâtit son église. Heureusement qu'il donne quelquefois des directions, des directives à ses serviteurs, et il nous introduit dans un sillon de sa pensée, de sa volonté, qui fait que, quelquefois, il dénonce des situations au sein de son peuple. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était, peut-être deux, trois semaines de ça, lors du culte, le Saint-Esprit a parlé d'une manière particulière concernant quelqu'un qui venait au milieu de nous, qui était là peut-être pour la troisième fois. Et le Saint-Esprit a bien dit, tu viens dans cette salle déjà la troisième fois, mais tes intentions ne sont pas pures. Oui, l'intention n'est pas pure. parce que tu viens chercher ce qui a de l'intérêt pour toi. Mais tu viens pas chercher Dieu, ni Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous savons que Jésus est là, amen. Et lorsqu'il voit que les choses dans le cœur de certains prennent des directions qui risquent d'être malheureusement nuisibles pour son peuple, alors rapidement le Seigneur prend les choses en main et il met de l'ordre. Amen. Alors, regardez avec moi. Galates, chapitre 1, verset 6. Regardez ce que dit l'apôtre. Galates 1, 6. Écoutez, voici ce que l'apôtre déclare. Il commence par Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, dit l'apôtre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Jésus-Christ, de Christ. Je m'étonne. Cela peut sembler étonnant parce que dans la réalité, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Et dans ce cadre-là, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre donne une parole qui a son sens, qui a son poids et sa mesure. Et qui, à partir du moment qu'on a saisi autant l'importance que la valeur, eh bien, on sera aussi au rang de ceux qui, par l'intelligence renouvelée et par le discernement spirituel, non seulement s'y attachent, mais feront tous les efforts nécessaires pour ne pas être au rang de ceux qui, comme les Galates, après avoir accepté des choses qui ne sont pas du tout en accord avec la pensée révélée des Saintes Écritures, eh bien, l'apôtre dit, si vous faites circoncire, Christ ne vous sert de rien, parce que vous êtes déchus de la grâce. Oh, que Dieu nous garde d'être déchus de la grâce. Gloire à Dieu. Alors, regardez avec moi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il est important que nous fassions cette lecture-là. 1 Corinthiens 15, verset 1er. Qu'est-ce que l'apôtre dit? C'est comme un rappel qui était donné aux Corinthiens, mais ce soir, c'est un rappel aussi au milieu de nous, Église de Christ. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous rappelle, frère. Quoi? L'évangile que je vous ai annoncé. Et vous serez avec moi unanime de dire que depuis des années, dans cette assemblée, l'évangile est annoncé. L'évangile que je vous ai annoncé, depuis des années, comme à Corinthe aussi, l'évangile est reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc, évangile annoncé, évangile reçu, évangile dans lequel vous avez persévéré, évangile par lequel vous êtes sauvé. Mais il y a une condition, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, dites avec moi, vous auriez cru en vain. Quel désastre! Quel désastre de croire en vain! Vous avez dit, si je crois en vain, eh bien, obligatoirement, les conséquences ne peuvent être que désastreuses pour moi. Je vais mettre toute mon énergie, ma force, ma vitalité, et après, à un moment donné, ce à quoi je me suis attaché se retrouve comme inexistant. Dans la réalité, frères et sœurs en Christ, l'apôtre continue et dit, je vous ai enseigné verset 3 avant tout, comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés, dites avec moi, selon les Écritures. Et il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et puis, pour conclure, il dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme l'extraordinaire apôtre que je suis devenu. Non? Comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais le persécuteur ou l'ancien persécuteur, une fois que le Seigneur a posé ses mains sur lui, l'a saisi, c'est le persécuteur qui est devenu prédicateur. C'est l'homme violent qui est devenu un frère aimant. Alléluia. C'est ça la transformation que le Seigneur opère. Donc vous comprenez pourquoi, frères et sœurs, en Christ, eh bien, l'apôtre pouvait dénoncer, comme nous venons de le lire dans Galates, le chapitre 1er, verset 6, dénoncer et était étonné de ce que les Galates, qui avaient reçu l'évangile qu'il avait prêché, eh bien, malheureusement, c'était si promptement détourné de celui qui appelle par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Galates 5, verset 9 à 10. Galates 5, verset 9 à 10. Nous allons voir la première cause désastreuse qui avait fait des ravages dans cette église de Galatie. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Verset 10. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Dans le chapitre 1er, verset 6 et 7, plutôt verset 7, il avait dit non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Eh bien, laissez-moi vous dire que lorsque dans le cœur d'un enfant de Dieu, le trouble s'installe, ça n'est jamais sans conséquence. Mais là, c'était pas un trouble passager. C'était pas un trouble passager, un petit trouble passager. Non, c'était un trouble profond. Et quand j'ai regardé ce qu'il y a derrière ce mot trouble, eh bien, j'ai compris que le trouble ne peut être autre chose que l'apport d'éléments obscurs, d'éléments étrangers, qui ne s'allient pas du tout avec ce qui est initial ou ce qui est conventionnel. Cela veut dire des éléments étrangers s'infiltrent, s'installent et commencent par le rapport de ce qui est contraire à la sainte et sainte doctrine de Jésus-Christ qui est selon la piété, commence à amener du trouble d'abord à l'intérieur. Et dès lors qu'il y a trouble à l'intérieur, il y a un malaise qui s'installe. Parce que dès lors que le trouble est entré dans le cœur, s'installe à l'intérieur, ça va affecter l'esprit et obligatoirement ça va se traduire par les paroles. Eh bien, dans l'église de Galates, c'était le cas. Je m'étonne que vous vous laissez si facilement emmener à adhérer à un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Il y a l'évangile de Jésus-Christ, dans lequel nous avons cru dès le commencement, dans lequel nous avons persévéré, auquel nous sommes attachés, car le Saint-Esprit, pour agir dans mon cœur, il a besoin que je sois attaché à l'Écriture. Et plus je suis attaché à l'Écriture, plus je suis en paix. Plus je suis attaché à l'Écriture, plus je suis serein. Plus je suis attaché à l'Écriture, plus véritablement ma communion avec mon Dieu, eh bien, elle est verticale, elle est réelle. Alléluia. Et puis le Saint-Esprit prend de ce qui est de Jésus et le met en moi, de sorte que ça devient vivant en moi et que je vive par ce qui est du Seigneur à l'intérieur de mon cœur. Mais dans l'église de Galates, c'était pas le cas. Donc le trouble s'était installé. Et si le trouble s'est installé, les conséquences ne peuvent être qu'irrémédiables. Et l'une des conséquences du trouble qui s'installe, lorsqu'on adhère à un autre évangile, lorsqu'on est troublé, obligatoirement avec le trouble, s'installe la confusion. Trouble de l'esprit, trouble dans le cœur, cela entraîne le trouble du sommeil. Vous avez entendu parler comme moi du trouble de la vision, et quelquefois ça va même beaucoup plus loin, ça produit quelquefois des troubles mentaux. Pasteur, vous nous faites entendre des choses étranges ce soir. Je vous fais entendre ce que Dieu veut que je dise. Je m'étonne. Je comprends quand vous avez prêché l'évangile, quand vous avez enseigné ce qui est conforme à la sainte et sacrée doctrine de Christ qui est selon la piété. Vous avez été conduit par l'Esprit pour délivrer le message de la grâce. Que vous voyez s'installer des choses que vous n'avez pas prêchées, c'est étonnant. Ça veut dire que la versatilité dont les Galates étaient, eh bien, atteints dans leur chair, dans leur nature humaine, cela se retrouve aussi dans la vie de l'Église. Mise en garde! Mise en garde! Autant pour eux qui ont reçu la parole, mais aussi pour nous ce soir, parce que c'est de nous qu'il est question. Les Galates, Dieu nous donne leur exemple, mais il nous met en garde pour que cela ne se produise pas au milieu de nous. Gloire à Dieu! Il y a une deuxième raison que nous allons aussi regarder. Première cause de l'arrêt que l'apôtre dénonce à ceux qui couraient si bien, mais qui ne courent plus. Galates 3, verset 1er. Notez bien, première cause de l'arrêt, le trouble s'étant installé, avec les conséquences que cela produit. Deuxième cause, Galates chapitre 3, verset 1. Oh Galates, dites avec moi, dépourvu de sens. Oh Galates, dépourvu de sens. Question, lisez, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Oh Galates, et l'expression dépourvue de sens, justement n'est pas dénuée de sens. Parce que lorsque vous prenez l'expression dépourvue de sens, nous ne sommes pas autre part que sur le terrain qui ressemble fortement à la... Mais oui, dites-le, n'ayez pas peur de le dire, hein. Parce que si vous dites la folie, vous vous trompez pas, hein. Parce que lorsqu'on est dépourvu de sens, ça veut dire qu'on a perdu le bon sens. Et si on a perdu le bon sens, on devient insensé. Oh Galates, dépourvu de sens. Et dépourvu de sens, aussitôt l'apôtre emploie un mot dans la question qui est posée. Qui vous a fasciné? Et quand je regardais derrière ce mot fasciné, j'ai trouvé qu'il y a une profondeur qui marquait autant la dimension du trouble, mais que les conséquences aussi étaient réelles et véritables. Alors j'ai trouvé que derrière ce mot fasciné, où j'ai défini la fascination comme étant un attrait, un attrait produit ou attiré, mais attiré dans le sens de dominer. Attirer dans le sens de dominer, et après le sens de dominer, attirer pour immobiliser quelqu'un en le privant de réaction. En le privant de réaction défensive par la seule force du regard. La fascination, c'est le fait d'attirer, de dominer, d'immobiliser quelqu'un en le privant de réaction défensive par la seule force du regard. Alors, écoutez, regardez comment l'apôtre emploie le mot fasciné pour définir la dimension des conséquences de la séduction qui s'était infiltrée dans l'église de Galatie et dont malheureusement certains était vraiment atteint de manière profonde. Fasciné. Lorsque vous êtes fasciné, lorsque vous êtes séduit par quelque chose, à l'intérieur de vous, il se produit, eh bien, comme un dérèglement qui fait que votre propre volonté se retrouve sans force. Et qu'après, vous êtes dans l'obligation d'accepter de suivre quelque chose ou de vous attacher à quelqu'un. Écoutez, c'est un peu ce qui se passe sur le plan humain quand notre vieille nature le reprend vraiment le dessus sur la vie de l'esprit. Et lorsqu'on est séduit, obligatoirement, il va se produire une suite de références qui va en découler. La première, dans la séduction, je viens de vous le dire, rapidement, on est gagné par la complaisance. La complaisance arrive. On s'attache à ce qui nous a séduit. Deuxièmement, avec la séduction ou la complaisance, on va se retrouver dans une position où nous allons même être conduits à excuser le péché. Complaisance, excuse du péché, ou si vous préférez, on va se laisser aller à la tolérance, et la complaisance et la tolérance ne sont pas autre chose, eu égard à la séduction, à nous amener progressivement à une conséquence plus grave qu'on appelle l'aveuglement. Pasteur Gentil, vous exagérez ce soir.
Non, pas du tout. Il n'y a rien d'exagéré. Si Dieu prend cet exemple de ce qui s'est passé dans cette église de Galate, et qu'au travers ce que nous partageons ce soir, il y a quelque chose qui est comme un moyen de dénoncer les conséquences de l'arrêt d'un enfant de Dieu. Moi, je ne suis dans la vie de personne. Je ne suis qu'un serviteur de Jésus-Christ à ma faible mesure. Mais quand le maître donne une direction, il sait ce qu'il fait. Oui, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence-là ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais celui qui vous trouble, il emportera la peine, quel qu'il est. Première cause de l'arrêt de certains enfants de Dieu, peut-être même ce soir, tu es là, tu es concerné, certes tu viens à l'église, mais à l'intérieur tu es arrêté. Donc tu as besoin d'entendre la parole du Seigneur ce soir pour dénoncer ce qui a causé ton arrêt et pour t'aider à reprendre ta marche.
Parce que le maître, lorsqu'il parle, c'est pas simplement pour le plaisir de parler, mais il parle dans un désir d'aider, de secourir, de relever, de fortifier, d'encourager. Enfin, c'est lui qui connaît chacune de ses brebis. Amen. Je n'ai jamais vu Jésus dire à une brebis, maintenant tu as laissé le loup te ravir, te blesser, débrouille-toi. Non, au contraire, au contraire, au contraire. Il prend l'image et déclare, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une seule, ne laisse les 99 autres pour aller chercher la centième qui est perdue, hein. Et lorsqu'il la trouve, il la met sous ses épaules avec joie. Et puis, il va dire à ses amis, venez voir, ma brebis qui était égarée, perdue, je l'ai trouvée. Et puis, il prend l'image des conséquences qui jaillissent non pas simplement sur la terre, mais dans le ciel. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Eh bien, à plus forte raison, celui qui est déjà entré dans le salut et qui malheureusement a connu la chute, il passe par un moment difficile, les conséquences maintenant l'ont rattrapé. Le pasteur, lui, ne sait pas ce que tu vis, mais Jésus sait ce que tu vis. Alléluia. Et en tant que bon berger, grand berger des brebis, il a toujours la parole dite à propos pour secourir, pour fortifier, pour encourager et pour, en quelques mots, te ramener dans la bergerie avec les autres brebis et te donner les soins appropriés par rapport à la situation qui est la tienne. Que Dieu te bénisse. La fascination, séduction profonde, incapacité, eh bien, de voir ou d'admettre, de concevoir autrement. Doctrine, et puis, on peut mettre derrière le mot doctrine, l'expression dévastatrice. Ce n'est pas du tout constructive, mais ça fait un désastre. Dégâts à l'intérieur, cette tradition par les propos, par la bouche, et puis après, tout un dérèglement qui fait que dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, dans la course chrétienne, on courait si bien auparavant. Parce que dans la vie chrétienne, attention, n'allez jamais dire que Jésus vous a promis tous les jours le beau temps, hein. Non. Dans la vie chrétienne, le baromètre spirituel n'est pas toujours au beau fixe. Mais le Seigneur, lui, le sait. Et ce qui est merveilleux, il a toujours le pouvoir de venir secourir celui qui en a besoin. Écoutez, vous connaissez comment la parabole qu'on dit communément la parabole du bon samaritain. Je vous ai parlé de cet homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, puis qui en chemin a été rencontré par des brigands qui l'ont roué de coups et qui l'ont laissé à demi-mort. Puis je vous ai parlé de l'octobre de la loi qui descendait, il est passé outre. Le Lévite aussi est passé outre. Mais un Samaritain qui passait par là, l'ayant vu, eh bien la Bible nous dit qu'il s'est arrêté, il a pansé ses blessures. Il a pansé ses blessures, et après, il a mis cet homme sur sa monture, il l'a amené à l'hôtellerie, et puis il a demandé qu'on prenne soin de lui. Puis, en prenant soin de lui, il a dit à l'hôtelier, « Prends soin de lui, et ce que tu vas dépenser en plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors, lequel dira-t-il, eh bien, a pris soin de, a pratiqué la miséricorde à l'égard de celui qui était tombé au milieu des brigands. Laissez-moi vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ est l'assaut de la miséricorde. À nul autre pareil, il vient au secours du malheureux qui crie, de celui qui est tombé, et le psalmiste même en a fait mention dans le psaume 94, lorsqu'il dit, quand je dis mon pied chancelle, ta bonté, ô Dieu, me sert d'appui. Oui, alléluia, mes bien-aimés, que Dieu soit béni dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne. Non seulement on peut être arrêté, mais avant d'être arrêté, il peut être pensable aussi que nous connaissions la chute. Oui, on peut connaître la chute. Alors, est-ce que parce que j'ai connu la chute, je suis disqualifié? C'est ce que les autres peuvent me dire. Certains vous disent aussi, il est arrêté, s'il y a ceci, s'il y a cela, c'est parce qu'il a péché. Et tu oublies que Jésus a dit de ne pas juger. Parce que forcément nous jugeons selon la chair. Oh, nous sommes champions pour pouvoir débiter des flots de paroles à l'encontre des autres.
La raison, c'est que nous pensons toujours que nous sommes meilleurs que les autres. Non, tu n'es pas meilleur que les autres. Si tu es debout, c'est la grâce de Dieu. Que celui qui croit être debout, dit l'Écriture, prenne garde de tomber. Qui es-tu? Toi qui juges le serviteur d'autrui. S'il reste debout ou s'il tombe, c'est l'affaire du maître. Mais il restera debout. Parce que le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Dieu peut permettre que tu connaisses la chute, mais c'est pour mieux t'affermir et t'aider à tirer le son de tes expériences passées. Gloire à Dieu. Donc, première cause de l'arrêt à Galates, le trouble s'était installé dans beaucoup de cœurs. Deuxième cause du trouble et de l'arrêt, conséquence du trouble, la fascination. Fascination, séduction profonde. Qui, malheureusement, n'est jamais, dénué, ni en retard de conséquences. Et puis, ça nous amène à regarder dans Galates 5, verset 15, encore une conséquence de l'arrêt de certains enfants de Dieu. Galates 5, verset 15. L'apôtre dit, Mais si, dites avec moi, mais si vous mordez. Mais c'est pas simplement mordre, hein. Après il y a un autre verbe. Si vous mordez et vous dévorez, quoi? Les uns les autres. Mise en garde, prenez garde, que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Frères et sœurs en Christ, vous savez que nous sommes dans une église. C'est une église que l'apôtre a mis en place, conduit par l'Esprit de Dieu. Ce sont des frères et sœurs comme vous et moi. Et j'ai noté qu'ils sont dans l'église de Galatie, ils étaient autres enfants de Dieu comme nous. C'étaient des frères et sœurs, comme nous. Allons plus loin. Ils étaient membres du corps de Christ, comme nous. Ils étaient gens de la maison de Dieu, comme nous. Ils étaient citoyens des cieux, comme nous. Et pourtant, l'apôtre dit, si vous vous mordez les uns les autres, et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Quel langage dans une église? Eh bien, si les choses étaient dénoncées de cette manière, c'est parce que le risque était réel dans l'église de Galatie. Oh, c'est pas le cas à Rencontre Espérance. À Rencontre Espérance, il n'y a que des bien-aimés frères et sœurs, qui sont extraordinaires. Vous croyez cela, pasteur? Vous vous trompez. Ah, je me trompe volontairement. Je me trompe volontairement parce que quand le Saint-Esprit donne un sujet pareil, eh bien, j'ai compris que la troisième source de l'arrêt d'un enfant de Dieu ou des enfants de Dieu, comme cela a été à Galates, ce sont les conflits. Conflits entre chrétiens. Vous savez qu'il y a des églises où les anciens sont en conflit avec le pasteur. Il y a des églises où les anciens sont en conflit avec les diacres. Il y a des églises où certains frères sont en conflit même avec le pasteur. Ils ne supportent plus l'enseignement qu'ils délivrent. Mais béni soit Dieu, en cause d'espérance, vous êtes des enfants de Dieu super, extraordinaires. Quand le pasteur prêche, vous buvez les paroles. Oui, merci Seigneur. Ah, vous avez compris que j'extrapole un peu, mais j'extrapole tout en étant sérieux. Parce que nous sommes dans la présence de Jésus. Si moi je ne sonde pas vos cœurs, il y a quelqu'un qui le fait tellement merveilleusement que moi. Il sonde les cœurs. Et en sondant les cœurs, en sondant votre cœur, Il sait ce que vous faites de cette parole que vous entendez là maintenant. Il sait si vous dites Amen avec les lèvres et si au fond de votre cœur il y a quelque chose qui repousse et qui vous fait regarder le pasteur, non pas directement, mais avec des yeux. Vous avez compris que je plaisante, mais je plaisante tout en étant sérieux dans le Seigneur. Les conflits entre frères. Vous savez, on peut venir à l'église rendre le culte à Dieu. On peut dire, quand le frère dirige la prière, on peut dire Amen. Quand il y a quelque chose qui va dans notre sens, on dit Alléluia. Mais quand on entend ce que Dieu dit là maintenant, il n'y a plus d'Amen.
Mais c'est là qu'il faut dire Amen. C'est là qu'il faut dire Amen pour montrer au Seigneur, Seigneur, je suis concerné. Cette parole-là, je la reçois pour moi, Seigneur. Parce que tu sais, depuis combien de temps je suis en conflit avec frère Intel. Tu sais, depuis combien de mois je suis en conflit avec frère Intel.
Le Seigneur le sait. Moi, je ne le sais pas, mais le Seigneur le sait. Alors, si tu es en conflit avec ton frère et ta sœur, la Bible te dit que même au moment de l'offrande, si tu sais que tu as quelque chose contre ton frère, laisse ton offrande. Et va te réconcilier avec ton frère.
Aïe, 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 aïe.
Vous croyez que c'est pour rien que l'Écriture est l'Écriture et que Jésus parle de ces choses? Le Seigneur qui n'est jamais dans un temps, mais il est toujours dans tous les temps, il sait bien que dans certaines églises, comme au milieu de nous ce soir, cette parole a sa place. Moi, je suis pas là pour plaire aux hommes. Hein. Quand si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Et quand je demande au Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ce soir, Seigneur? Mais le Seigneur m'amène dans sa parole. Une fois qu'il me donne la direction, je ne connais plus personne selon la chair. Je dis ce que le maître dit. Que vous soyez content après moi, ça ne fait rien. Que vous m'en voulez, ça ne fait rien. Au contraire, plus vous m'en voulez, plus Dieu me bénit. Mais parce que je fais sa volonté. Non, mes bien-aimés, le maître sait ce qu'il fait. À Galate, il y avait le trouble qui s'était installé. À Galate, la fascination avait fait son travail en menant la séduction pour arrêter certains dans leur course. Et puis, il y avait aussi les conflits entre frères qui suscitaient véritablement un arrêt dans la communion fraternelle. Car quand tu as un conflit avec ton frère, quand tu le vois arriver sur le trottoir, il ne faut pas lui dire bonjour, tu traverses la rue. Mais tu es en conflit. Je ne vais pas lui dire, frère, hypocrite! Dieu n'a que fait des hypocrites. Il veut te débarrasser de l'hypocrisie. Pour que tu puisses être vrai avec ton frère. Parce que le frère avec lequel tu es en conflit, c'est un citoyen déçu comme toi. Il est au bénéfice comme toi de la même grâce. C'est au bénéfice du même salut. Alors si sur la terre, tu ne veux pas te réconcilier avec lui et que tu laisses le conflit s'envenimer, laisse-moi te dire que dans le ciel, il n'y a pas de conflit. Alors c'est pendant que tu es en route avec ton adversaire, tu dois te réconcilier avec lui, dit le Seigneur. Alors ça veut dire ce soir, au travers de ce que Dieu nous dit, certains, après le service, feront une démarche constructive, spirituelle, pour aller trouver un frère, une sœur. Vous dites, mon frère, ma sœur, je viens de trouver suite à la parole que le Seigneur a donnée. Je ne veux pas laisser la situation dégénérer,
c'est ça?
Dégénérer entre nous. Ou faire un amendement, ça a assez duré. Trop longtemps!
On a été
dans l'incompréhension, toi et moi. Ce soir, je veux que nous puissions nous réconcilier. Tu as triomphé de ce qui dominait sur toi. Et en le faisant, tu fais une démarche spirituelle, constructive. En le faisant, tu es béni de Dieu. Et en le faisant, tu fermes la bouche au malin. Oui, alléluia, oui. Mais si vous vous mordez les uns les autres, Mordre, c'est ça. Mais dévorer, quand vous dévorez quelque chose, il n'y a plus rien.
Mais oui.
Donc l'expression de la porte est forte. Vous mordez. Gram, gram, gram. Mais après, il va plus loin, vous dévorez. C'est dans l'optique de le faire disparaître. Celui qui a été racheté à un grand prix, tellement tu es en conflit avec lui, tu ne veux plus le voir. Si Jésus agissait de la même manière à ton égard, tu t'assures que ce ne serait pas glorieux. Mais le Seigneur Jésus, il est là pour tous ce soir. Ou celui qui est au sommet de la pyramide parce que Dieu l'a béni, ou celui qui est en bas de l'échelle, c'est un frère comme toi, comme moi. Tous, on est au bénéfice de la même grâce. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 13. C'est le même apôtre qui parle dans une église où il y avait aussi, non pas dans le même sens, mais quelque chose qui avait pris place. Et j'appellerais cela plutôt un parti pris. Un parti pris qui fait que l'apôtre non seulement dénonce ce qu'il avait entendu par les gens de Chloé, verset 11, 1 Corinthiens 1, 11, il dit car, 1 Corinthiens 1, 11, car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Certaines versions ont des disputes, mais disputes, rivalités, c'est un peu le même terrain. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul. Moi, d'Apollos. Et moi, de Céphas. Et la dernière catégorie, moi, je suis de Christ. Question. Christ est-il divisé? Non. Christ n'est pas divisé. Alors, si Christ n'est pas divisé, pourquoi tu es divisé avec ton frère? Si Christ n'est pas divisé, pourquoi es-tu divisé avec ton frère? Pourquoi il y a de la dispute entre vous? Pourquoi les choses ont dégénéré entre vous dans votre relation et votre communion fraternelle? Pourquoi? Parce qu'il y a un apport étranger. C'est ce qui est toujours étranger qui amène le trou. Tant que les choses sont conformes à l'écriture, il n'y a pas de trouble. Mais dès qu'un corps étranger s'infiltre, s'installe, prend place et demeure, le trouble arrive. Alors, on continue. Première question, Christ est-il divisé? Non. Paul, a-t-il été crucifié pour vous? Non. Qui a été crucifié pour vous? C'est Jésus-Christ. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Non. Vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, il n'y avait aucune raison, mes bien-aimés, qu'il y ait des partis pris dans l'église de Corinthe. Mais la réalité, c'est que ça existe. Et l'apôtre va mettre de l'ordre. Il mettra de l'ordre pour montrer que ni Paul, ni Apollos, ni Céphas, ce sont des instruments au moyen desquels vous avez cru. Mais celui qui a de l'importance et de la valeur, c'est celui qui est mort et ressuscité des morts, qui s'appelle et qui est au milieu de nous ce soir, que son nom soit pleinement béni et glorifié. Galates 5:16 pour la conclusion. Donc, il a dénoncé le trouble, conséquence, la fascination. Conséquence, l'arrêt de beaucoup. Conséquence encore, se dévorer les uns les autres, se mordre et se dévorer les uns les autres. Et puis, voici la conclusion qui se trouve dans Galates, le chapitre 5, verset 16. Galates 5, 16. Je dis donc, Je vous dis donc, et ce soir, cela nous est destiné. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre? Et qu'est-ce que Jésus nous dit ce soir? Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car tout ce que nous venons de lire là, quand ça prend place dans une vie, ça veut dire que la chair, malheureusement, c'est lui qui en est l'instigateur, c'est lui qui en est le responsable, et c'est lui qu'il faut dénoncer, et il faut rapidement le ramener à la croix. Vous comprenez que ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair et ses passions. Et quelquefois, on a besoin que le Seigneur nous ramène à la croix, afin de considérer son œuvre. Ainsi, l'apôtre dit aux Philippiens, « Ainsi je connaîtrai Christ. » Et la puissance de sa résurrection, afin de tâcher, si je puis, d'être conforme à lui dans sa mort, pour que sa vie de résurrection s'exprime en moi. Or, quand la vie de résurrection de Jésus s'exprime en moi, je suis conduit à marcher, non pas par l'énergie de ma chair, mais par le Saint-Esprit. On dit merci au Seigneur.
Quelqu'un dira, si je ne suis pas venu, mais pourtant t'es venu, et Dieu t'a conduit. Maintenant tu as attendu, donc tu es responsable. Prions le Seigneur.
Notre Père et notre Dieu, pour ma part, mon Seigneur, j'ai gardé la direction que tu m'as donnée. Et en gardant la direction que tu m'as donnée, j'ai fait, Seigneur mon Dieu, ce qui est conforme à ta sainte volonté pour ton peuple ce soir, tes enfants, mon Dieu. Seigneur, ta parole, lorsqu'elle est donnée ainsi, frappe toujours sur le vieil homme. Mais qui peut mieux que toi, sachant de quoi nous sommes faits, et connaissant la vie de chacun de nous comme tes enfants, donne toujours la nourriture au temps convenable, mais tu la donnes dans la direction qui est aussi, Seigneur mon Dieu, nécessaire et utile pour ta gloire. Pour que nous qui sommes devenus tes enfants, nous en qui tu as mis le Saint-Esprit, Seigneur, nous soyons conduits aussi par l'intelligence renouvelée, autant à saisir ta pensée, à la comprendre, à la recevoir, mais surtout à la pratiquer, chacun en s'en faisant une application personnelle. Ô Dieu, ta parole le dit, et ton serviteur l'a dit dans cette épître aux Galates, que l'esprit qui est en nous a des désirs contraires à la volonté de Dieu. Ils sont opposés entre eux. Mais aide-nous, s'il te plaît, à nous soumettre à ce que tu dis. Seigneur, tu connais dans notre vieille nature combien il y a quelquefois de la rébellion. Que la rébellion amène l'opposition. Et la rébellion et l'opposition ne sont pas autre chose que le fruit de nos raisonnements. Mais lorsqu'on s'incline à ce que tu dis, aide-nous à soumettre notre volonté à ta volonté, Père. Oh, nous avons besoin de toi ce soir. Mais ce qui est merveilleux, Père, au nom de Jésus, c'est que nous pouvons toujours compter sur toi. Seigneur, tu travailles afin que de plus en plus nous soyons à l'image du merveilleux modèle que tu nous as donné en la personne de Jésus. Et ton dessein, c'est que nous devenions de plus en plus des hommes faits. Ta parole définit l'homme fait comme celui qui par l'usage est exercé à discerner le bien du mal. Oui, Seigneur, ce soir, tu nous as parlé. Et je te remercie, car tes saints conseils sont toujours prolifiques à partir du moment, Seigneur, où nous les recevons, non pas comme la parole d'un homme, mais comme ce qui vient de toi. Père, je t'adore de tout mon cœur. Je te remercie de tout mon cœur, Père, au nom de Jésus. Je t'adore, Seigneur Jésus, car je reconnais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant et vrai. Mon âme se réjouit en toi, Père. Je te dis merci au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse.